Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de la Toussaint est une des plus consolantes et des plus instructives, puisqu'elle nous montre la gloire dont jouissent les saints, nos frères aînés, et nous fait espérer aller un jour la partager, car selon le mot célèbre de saint Augustin, pourquoi ne pourrions-nous pas faire ce qu'ils ont fait ? L'évangile de cette fête est parfaitement adapté à son objet, puisqu'il nous donne le mode d'emploi à suivre pour parvenir au bonheur du ciel. Les 8 béatitudes enseignées dans l'évangile par notre Seigneur Jésus-Christ sont en effet un abrégé de la perfection. Elles sont comme autant de degrés pour s'élever à la sainteté et à une union parfaite avec Dieu. Jésus, le pédagogue par excellence, sachant combien le mot de bonheur a de fascination pour entraîner les hommes, les présente sous forme de promesses douces et gracieuses. Ce sont des sentences vives, originales et frappantes, qui se gravent immédiatement et sans peine dans la mémoire. La récompense promise, exprimée sous différentes formes, est en fin de compte toujours la même. Le bonheur du ciel, avec un avant-goût délicieux dès ici-bas. Comme il y a un rapport de proportion directe entre le but fixé et les moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre, nous devons chercher d'abord à mieux connaître quel est le bonheur du ciel. Si les marchands de bonheur ont toujours été nombreux à toutes les époques, c'est parce qu'il y a de la demande. En effet, les hommes désirent naturellement être heureux. C'est le but qu'ils poursuivent sans cesse, le cherchant bien souvent où il n'est pas, et alors ils ne trouvent que des illusions. Pour les uns, ce sera des biens matériels, une bonne situation, la renommée, la puissance politique ou financière. Pour d'autres, les plaisirs de la vie. Le monde est là pour nous les faire convoiter. La technique moderne propose même des voyages fantastiques sans bouger du siège de son ordinateur. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les aspirations, toutes les conditions sociales. Même si nous éliminons tous les marchands de bonheur qui sont des menteurs, pourrait-on trouver des hommes honnêtes qui pourraient nous procurer le bonheur ? Pour que de tels hommes existent, il faudrait qu'ils connaissent à fond la nature humaine, le but de son existence, et soient capables de lui fournir les moyens nécessaires pour l'atteindre, non seulement aujourd'hui, mais à toutes les époques. Il est évident que cela dépasse les forces humaines. Seul notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est homme et Dieu tout à la fois, peut nous dire en vérité où se trouve le bonheur véritable et durable ? Où est le but de notre vie ? Et nous donner les moyens pour y parvenir. La révélation qu'il a confiée à son Église nous enseigne avec certitude ce qu'est le ciel. C'est un lieu où vont les âmes des justes, complètement purifiées. Dans ce lieu, elles voient Dieu face à face, tel qu'il est, nous dit saint Jean. En le connaissant, nous connaîtrons toutes choses et les causes de toutes choses, sans jamais les épuiser. Notre intelligence sera pleinement satisfaite. Voyant le bien infini, notre volonté l'aimera pour toujours, sans jamais s'en détourner, sans se lasser, sans l'épuiser. Quand on jouit de quelques instants de bonheur sur cette terre, cela arrive, on chante, on rend grâce, on remercie. Alors imaginez quelles louanges les saints font éclater au ciel, et cela sans fatigue. Saint Augustin résume ce bonheur du ciel en trois mots. Nous verrons Dieu, nous aimerons le bien fini, Dieu, et nous le louerons éternellement. Saint Paul nous assure que ces biens sont si éminents que l'œil n'a jamais rien vu, l'oreille entendu, ni le cœur de l'homme rien conçu qui leur soit comparable. Dans la Jérusalem céleste, nous dit saint Jean, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de souffrance, ni douleur. Ce qui était auparavant a pris fin. Nombreux sont les saints qui, dès ici-bas, ont eu un avant-goût du bonheur du ciel qui dépasse toute conception. Rien que la certitude d'aller au ciel procure un bonheur ineffable. Ainsi, au XXe siècle, saint Maximilien Kolb fit cette confidence à ses frères capucins. Si vous saviez comme je suis heureux, mon cœur est rempli de bonheur et de paix, autant qu'on peut en goûter sur cette terre. Malgré les soucis et les préoccupations de chaque jour, il règne toujours au plus profond de mon cœur une paix et un bonheur qui n'est pas possible de définir avec des mots humains. Après, il en donne la raison. C'est parce que j'ai reçu l'assurance du paradis, et cela en toute certitude. Cela lui a été donné par la Sainte Vierge. Il parlait, rapporte un frère témoin, avec tellement de conviction et d'émotion que des larmes jaillirent de ses yeux. Au XIXe siècle, nous avons le témoignage admirable du père Carme Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, racontant ce qui s'était passé lors de son baptême le 28 août 1847, à l'âge de 27 ans. C'est en effet à cet âge qu'Hermann Cohen, pianiste juif de talent, ami de Franz Liszt, imbu des idées libertaires et révolutionnaires, fut converti par le Saint-Sacrement en l'église de Sainte-Valère à Paris, où il était venu pour remplacer un ami pour la direction des chœurs. Il est mort saintement le 20 janvier 1871, alors qu'il se dévouait sans compter au service religieux des 6000 prisonniers français à Berlin. La cause de béatification a été introduite à Rome dès la fin du XIXe siècle. Voici ce qu'il dit. Aussitôt après le baptême, j'ai vu des yeux de mon âme une clarté immense, sans fin, dans laquelle des myriades d'anges chantaient des hymnes d'un charme ineffable. Au milieu de cette clarté régnait une lumière encore plus éclatante de blancheur. Là se trouvait un trône glorieux où était assis notre Seigneur Jésus-Christ, ayant à sa droite sa divine mère. Autour du trône, l'armée des saints, vêtue des plus éclatantes couleurs, adorant notre Seigneur et me regardant d'un doux sourire de bienveillance. Tout le ciel et ses habitants semblaient se réjouir de mon baptême. Oui, j'ai vu le paradis de l'Église triomphante. Hélas, que mes paroles sont loin d'exprimer la réalité qui m'a paru. Chers fidèles, n'est-ce pas la confirmation des paroles de notre Seigneur ? Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et dans cette description, ne voit-on pas la même chose que ce qui nous est raconté dans l'épître d'aujourd'hui ? Ce bonheur du ciel est extrêmement désirable. Il n'est pas réservé à quelques privilégiés, à quelques âmes d'élite. Non, notre Seigneur a versé son sang pour tous et tous sont appelés au royaume des cieux, mais les hommes sont libres d'y répondre. Et hélas, beaucoup n'y répondent pas. Les saints qui y sont parvenus n'étaient pas différents de nous. Beaucoup étaient de grands pécheurs, saint Paul, saint Augustin, sainte Marie-Madeleine, etc. Ils avaient des défauts, la colère, comme saint François de Sales. Ils ont vécu des conditions familiales et sociales difficiles. Alors, si étant semblables à nous au départ, les saints sont parvenus au ciel, posons-nous la bonne question. Comment parvenir nous-mêmes au ciel? En nous enseignant les béatitudes, notre Seigneur nous montre la voie royale pour y parvenir. Les auteurs spirituels divisent les sept premières en trois parties. Les béatitudes de la délivrance du péché, celle de la vie active du chrétien et celle de la contemplation des mystères de Dieu. La huitième béatitude réunit les sept précédentes. Notre Seigneur recommande tout d'abord la pauvreté. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi cela? Parce que l'esprit de pauvreté détruit la cupidité et l'orgueil, qui sont la cause et la source de tous les péchés et de tout mal. C'est d'eux, en effet, que proviennent le plus souvent dans les familles, dans les cités et entre les États, la division, la guerre, les rixes, les haines, les procès. Un petit exemple plein de candeur tiré de la vie des pères du désert va nous illustrer cela, cette action de l'esprit de pauvreté. Deux anciens habitaient la même cellule, donc des pères du désert, et ne s'étaient jamais querellés. L'un d'eux dit un jour, « Disputons-nous comme font les hommes ?»« Je ne sais comment faire, » répondit l'autre. Le premier reprit, « Voici, je place une brique entre nous, et je vais dire, c'est à moi. Et toi, tu vas dire, non, c'est à moi. Et c'est ainsi que commence une querelle. Ils firent ainsi. Le premier dit, c'est à moi. Et l'autre répondit, je crois que c'est à moi. Le premier rétorqua, mais non, c'est à moi. Alors l'autre répondit, si c'est à toi, prends-le. Et ils ne surent pas se disputer. On pourrait remplacer la brique par un lingot d'or, des gisements de charbon, de pétrole, etc. Et puis chez les enfants, les jouets. L'esprit de pauvreté consiste dans un vrai et sincère détachement des biens de la terre par un motif surnaturel, que ce détachement soit volontaire ou forcé. Ainsi, on distingue des pauvres volontaires qui, de plein gré, pour l'amour de Dieu, se dépouillent de tous leurs biens, comme les pères du désert, comme les religieux. L'exemple de saint Antoine du désert qui a tout quitté et qui est parti au désert. Saint François d'Assise, qui a laissé même ses habits à son père. Ils ont obéi à la parole de notre Seigneur. « Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, puis viens et suis-moi. » Il y a des pauvres par nécessité, il y en a beaucoup, qui subissent les rigueurs de la pauvreté et de la misère suite à leurs conditions de naissance ou de quelque accident, pensant aux guerres, aux révolutions qui règnent à travers le monde et qui engendrent beaucoup de pauvreté. Pour avoir l'esprit de pauvreté, le pauvre par nécessité doit encore accepter son sort, sans murmure, avec patience et résignation. Sinon, il n'est pas vraiment un pauvre de cœur. D'autres, quoique vivant de la richesse, peuvent aussi avoir l'esprit de pauvreté. C'est plus difficile. Notre Seigneur dit que c'est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de parvenir au royaume des cieux. Mais cela existe. Ils seront pauvres d'esprit s'ils possèdent leur richesse sans attache de cœur et sans orgueil, s'ils sont prêts à les perdre sans se plaindre, et s'ils en usent sagement, selon la volonté de Dieu, pour toutes sortes de bonnes œuvres. Il y a aussi les pauvres qui sont humbles de cœur, ils sont pauvres d'eux-mêmes, ils ne présument pas d'eux-mêmes, de leur talent, de leur savoir-faire, de tout ce qu'ils ont acquis par la force de leur travail. Ils se considèrent comme des mendiants de la grâce de Dieu. Combien la récompense de cet esprit de pauvreté est magnifique. Le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire la paix et la joie, avec déjà un aperçu ici-bas. Car les pauvres d'esprit vivent dans la grâce et l'amitié de Dieu. Et ils sont comblés dès ici-bas de biens spirituels qu'ils n'auraient jamais pu avoir sans ce détachement des biens de la terre. Plus on détache des biens matériels, on se détache des biens matériels, de ceux de l'esprit, de notre honneur, de notre réputation, plus Dieu nous comble de ses biens. Être pauvre des biens extérieurs et des biens intérieurs, tels que les talents que Dieu nous a donnés ou que nous avons acquis au prix de notre labeur avec l'aide de la grâce de Dieu, ouvre notre âme au bien surnaturel. Notre vie doit ensuite, dans le milieu où Dieu nous a placés, rayonner autour de nous par les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, ce sont les œuvres de miséricorde matérielle et spirituelle. Citons-en quelques-unes. Exercer l'hospitalité, visiter les malades, pardonner de bon cœur les offenses, prier pour les pécheurs et nos défunts, instruire les ignorants, donner de bons conseils, consoler les affligés, compatir à ceux qui souffrent, quelle que soit la cause de leur souffrance. C'est la pratique de la miséricorde, c'est à la pratique de la miséricorde que nous convie la cinquième béatitude. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et pour la pratiquer, cette miséricorde, il faut observer trois choses. Tout d'abord, dans ses œuvres, notre charité doit s'exercer envers toutes sortes de personnes, sans excepter ceux qui nous sont antipathiques, nos ennemis. Et dans l'épître d'aujourd'hui, on a vu qu'au ciel, il y avait toutes les nations, toutes les langues, toutes les races. Donc il faut accepter aucune race, aucune nation, aucune langue. Que notre charité s'étende à toutes sortes de misères, que ce soit des misères morales, des misères physiques, des misères de santé, qu'elle soit tendre, pure et désintéressée. Nous imiterons ainsi notre Seigneur qui a fait le bien partout où il passait et envers tous. La récompense promise dépasse de beaucoup les renoncements et toutes les souffrances que cela comporte. Notre Seigneur nous dit dans la parabole du jugement dernier que tout ce qu'on aura fait en son nom, c'est à lui-même qu'on l'aura fait. Et il nous appellera à sa droite, « Venez les bénis de mon Père prendre possession du royaume des cieux que je vous ai préparé. » Toutes ces œuvres, la sixième béatitude nous demande de les accomplir avec un cœur pur, car on peut encore accomplir le bien, mais si l'intention n'est pas bien droite, eh bien, tous les mérites ne sont pas obtenus. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté du cœur consiste à tout faire pour plaire à Dieu. Nos pensées, nos paroles, nos actions, nos affections, tout doit être fait dans cette intention de plaire à Dieu. Et ce n'est pas si simple. Si on regarde bien, si on analyse nos pensées, nos paroles, nos actions, lorsqu'on rend service, etc., il s'église toujours de l'amour propre. La récompense nous fait voir Dieu dès ici-bas, dans les événements de notre vie, dans notre prochain, dans les épreuves du temps présent. L'âme voit Dieu en action en toutes choses, et cela la fortifie grandement. Ça lui donne la paix intérieure, malgré les difficultés de toutes sortes. Alors, les saints ont pratiqué toutes ces béatitudes. Maintenant, ils jouissent du bonheur parfait au ciel. Ils louent éternellement la miséricorde de Dieu. Demandons-leur en ce jour toutes les grâces dont nous avons besoin pour pratiquer ces béatitudes et parvenir un jour avec eux à louer la Sainte Trinité, sa miséricorde infinie, et à louer avec eux et la Reine du Ciel, Dieu qui nous a fait miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.